Une émission soutenue financièrement par Jean Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Un petit outil très très rapide qui s'appelle en anglais Name Picker Ninja, le NAM Picker Ninja. Donc c'est un énième outil de sélection des élèves à la volée. Vous savez, on a des roues, on a tout ça, là on le sait bien quand on veut que le hasard choisisse nos élèves. Et lui, c'est un autre système qui est assez rigolo. Donc bon, c'est toujours le même principe, vous ajoutez des noms. Et vous allez faire tourner, alors ici, ce ne sera pas une roue, c'est une liste. Hein. Bon, il y a un petit effet visuel un peu générique avec tous les noms qui circulent assez rapidement. C'est rigolo, vous pouvez changer le fond, c'est coloré. Bon, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qu'il y a en plus que je n'avais pas dans ce que j'utilisais, c'est que par contre, vous pouvez enlever le nom de la liste si vous ne voulez pas que la deuxième fois, ça retombe sur le même. Voilà, c'est très rapide. C'est vraiment très rapide, voilà, il y a un site, ça prend 3 secondes de copier-coller les noms, un de plus, hein, si je puis dire, mais je voulais vous le présenter, j'ai trouvé ça joli et coloré.
J'utilise beaucoup la roue de Flippity que j'avais parlé il n'y a pas longtemps, les élèves, ils adorent.
Ah oui, bah ça marche. C'est randomized, comme on dit. Voilà. Ça marche, c'est rigolo, bon voilà, là c'est un autre système.
C'est bien.
C'est joli, ça mange pas de pain, c'est assez rapide. Voilà, un tout petit outil que je voulais vous donner, namepickerninja.com. On mettra dans les notes de l'émission et bien évidemment, c'est tout gratuit.
Voilà, moi j'ai parlé aussi d'un truc qui n'est pas très long non plus, qui s'appelle Sketch Nation. SketchNationApp.com exactement. Donc c'est une ou soit une web app, donc une application qui est dans le navigateur, soit sur iPad et Android, tablette, qui permet de faire des petits jeux vidéo, ou alors c'est des jeux un peu pré-mâchés, hein, disons, hein, c'est du style Flappy Bird, du style Mario, on saute à droite à gauche, mais où on va pouvoir tout configurer le jeu entièrement, des designs, alors on ne configure pas vraiment le code, hein, comme un jeu comme Scratch ou quoi, etc. Mais on va pouvoir gérer toute la partie graphique, la partie difficulté, Vraiment, c'est vraiment très sympa, c'est assez facile à prendre en main. Pour l'instant, je ne sais pas quoi trop en faire avec mes élèves, mais peut-être pour des plus petits, je ne sais pas, celle que je pensais. En tout cas, il y a une grosse partie création. C'est tout gratuit. Franchement, c'est tout gratuit. Donc, je vous le conseille, Sketch Nation App, et vous trouvez ça sur sketchnationapp.com.
C'est-à-dire qu'il y a des templates, comme on dit, des trucs tout prêts, c'est ça? Comment
c'est ça, des trucs tout prêts, tu choisis ton type de jeu, hein, ton type de jeu style à la Mario, et puis d'ailleurs, tu vas choisir ton personnage, tu vas choisir tes fonds, tu vas choisir ta difficulté d'obstacle, tu vas choisir, ça va très très loin, hein, jusqu'aux couleurs, jusqu'aux...
Mais il n'y a aucune notion de programmation, je veux dire, là-dedans.
Aucune notion de programmation, on est juste sur de la création pure.
De la création pure, quoi. Ouais, c'est pas mal, ça peut avoir quelques... Plutôt sur justement le côté artistique ou le côté... voilà, choix, en fait, faire des choix et les justifier, ça peut être intéressant à utiliser.
On va, si vous suivez les teachers depuis quelques temps, vous allez trouver que je suis un peu maniaque sur l'idée, mais je vais vous parler de robots, plus particulièrement de petits robots qui s'appellent Edison. J'en ai déjà parlé plusieurs fois parce que ce sont des petits robots, les petits robots de format classique. Bon, ils ont la taille un peu d'une boîte d'allumettes avec deux roues à l'avant. Et leur principale caractéristique, on va dire ça rapidement, c'est d'être compatible avec les briques Lego. Et aussi, de ne pas être très cher. Donc forcément, ça a tous les arguments pour me séduire. Alors, je vous fais rapidement un petit historique, hein, c'est pas un historique très détaillé. Au départ, ils avaient fait un langage, pour la programmation, c'est une espèce de langage un peu hybride, qui mélangeait à la fois des icônes, et pour chaque icône, une propriété... des propriétés sous forme de tableau, etc. C'était, c'est pas imbuvable, mais c'était pas très pratique. Donc, il fallait un petit peu initier les élèves. Ensuite, ils avaient développé un langage entièrement graphique. Ça date de l'année dernière, dans mes souvenirs. Et c'était déjà mieux, mais ça restait, je sais pas, c'était pas aussi évident que ça aurait dû l'être quand on a ce genre de robot dans les mains. Et là, ils ont développé un langage qui s'appelle Head Scratch. Donc, si vous êtes un petit peu habitué, vous devez avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça ressemble donc à de la programmation graphique à la Scratch, où vous allez retrouver toutes les icônes classiques que vous avez dans Scratch pour symboliser le départ, les boucles, les opérateurs. Vous avez bien sûr des choses qui sont plus particulières au robot, du style avancer, le moteur droit, le moteur gauche. Vous avez les variables, bien entendu. Vous avez des points de départ avec les obstacles détectés selon où ils sont détectés, s'ils détectent un clap, etc. Et quel avantage, me direz-vous ? Ben, moi, si vous voulez, c'est très simple. Là, en ce moment, avec mes élèves, on est en train de faire de la programmation. On fait on débug un jeu que j'ai pêché dans une collection dont j'ai pas déjà parlé l'année dernière. Et une fois qu'on aura fini ça, pour passer au robot, ça va être mais comme dans du beurre, parce que la logique, elle reste la même. Le langage ressemble beaucoup. Il faut simplement se mettre dans la peau du robot, si vous me passez l'expression. Mais à part ça, eh bien, rien de très très compliqué. C'est en plus une interface très dépouillée, c'est en ligne. Par contre, ça, c'est leur choix. J'ai fait quelques essais et franchement, j'ai été agréablement surpris par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Donc, je compte bien revenir dessus une fois que mes élèves auront mis les mains dedans, mais franchement, j'ai quand même l'impression que ça simplifie énormément les choses par rapport à leurs tentatives précédentes. Et je rajouterai en plus, sur le site, vous avez, comme à leur habitude, à chaque fois qu'ils sortent ce genre de langage, ils vous font un livret d'accompagnement. Bon, c'est en anglais, mais bon, il ne faut pas non plus être bilingue pour comprendre. Vous avez des séquences toutes prêtes, vous avez des constructions à réaliser. En fait, voilà, vous avez quasiment tout clé en main.
D'accord. En tout cas, ça va booster ce petit robot là qui, quand on avait parlé un petit peu autour de moi, tout le monde disait que c'était le langage qui pêchait un peu. Tu vois, ça va lui mettre un petit coup de boost en tout cas.
En fait, j'ai un peu de mal à. Je suis content que tu me dises que ce soit le langage qui bloque un peu parce qu'à chaque fois, je sais que quand on parle robotique, j'en parle parce que les collègues sont sensibles au prix, forcément. Par exemple, moi, je vous dis, pour l'année dernière, j'en ai acheté deux avec un espèce de pack qui faisait très pratique pour pouvoir les combiner, faire une espèce de tractopelle ou une machine à dessiner ou ce genre de choses. Tout ça pour moins de 100 euros.
D'accord, parce que celui de base, il est à combien ?
Basiquement, vous l'avez autour de 50.
À peu près. Ouais, donc c'est très intéressant.
Donc, franchement, c'est un bon petit robot. C'est pas, il a ses défauts, bien entendu. Hein, faut pas se leurrer. Mais franchement, il a pas mal d'avantages.
Donc, oui, il a pas mal de capteurs aussi, non ? C'est ça ?
Oui, il a des capteurs. Enfin, c'est un vrai robot, quoi. C'est pas un truc uniquement programmable et qui foncera dans le mur. Non. Il a ses capteurs, il a ses LED, il fait sa musique. Enfin, voilà.
Non, puis en plus, comme le langage bloc, c'est le langage en ce que voilà qui. On a décidé que ça allait être jusqu'au lycée, donc je pense que ça va lui donner un bon petit coup de boost à ce robot.
Bah, disons que pour ceux qui ont eu la joie de connaître les premiers pas sur du langage où l'on tape tout, c'est certain que ça facilite énormément les choses. Quand il n'y a pas d'erreur d'orthographe et qu'il n'y a que de la syntaxe, c'est
bon. Ouais, non, mais je ne parle même pas ça, je parle aussi du langage avant, tu sais. C'était des blocs, c'est ça ?
Langage, je pense qu'ils ont fait des essais, mais ils se sont engagés, tu sais, à mi-chemin à chaque fois entre deux trucs. Un peu de graphique, mais quand même un peu de texte à côté, parce qu'on ne sait jamais si...
D'accord. Voilà. Mais uniquement en anglais, par contre, hein, c'est ça ?
Ah oui, alors c'est uniquement de l'anglais. Bon, franchement, sincèrement, je sais que moi, ça fera une petite révision à mes élèves. Après, c'est des verbes, wait, repeat, forever... If, then, enfin bon, c'est franchement de l'anglais de base, de chez base. Et bizarrement, de toute façon, quand c'est pour programmer un robot, il y a beaucoup moins de soucis.
Je rappelle, tu as des cycles 3, toi, hein, c'est ça ?
Oui, alors moi, j'ai même des cycles 2, je descends jusqu'au CE2. Donc,
Voilà. Et ça commence pas en CE2
l'anglais. En CE2, on s'adapte. En CE2, on s'adapte. Moi, après, je fais pas mal de mélanges de groupes, etc. Parce que j'ai des CE2 qui sont, très à l'aise. Et j'ai des CM2, parfois, qui sont un peu pâteaux. Donc, c'est pas plus mal. Non, okay. ça bloque pas trop. Quoi.
Non, je te pose la question parce que j'ai eu pas mal d'instits quand je leur ai dit en cycle 2 un langage en anglais qui ont un peu pris peur. Donc,
Non, il faut pas faire ça. Moi, je me rappelle, il y a des années, on avait des. Je regardais sur le site, mais il y avait Adobe. Je sais pas comment on l'appelait. Non, c'est Spark.
Et, Voice. Ouais.
Voilà, Voice. On avait Adobe Voice. Et le truc d'Adobe Voice, c'est qu'on avait le choix pour faire les petites présentations. C'est soit on faisait une recherche en français, on avait, je vais exagérer, 5 résultats. Et on faisait la même recherche en anglais, on en avait une vingtaine. Ce que faisaient les collègues à ce moment-là, ils se faisaient des pages entières de lexique. Hein. Ils se faisaient, regarde, si tu cherches ça, cherche ce mot-là en anglais, etc.
C'est bien.
La universalité des apprentissages, pour moi, c'est
très bien.
Essentiel.
Ok, très bien. Voilà. Donc, Head Scratch, on tape ça sur Internet, on le trouve.
C'est alors, ça on va sur le site meetedison.com et là, c'est un petit site tout simple, tout tranquille. Vous pouvez ou commander les robots ou programmer les robots avec les différentes versions. Sachant que les langages dont j'ai parlé qui étaient avant, je crois qu'ils les ont retirés pour certains. C'est pas plus mal.
Ok.
Voilà.
Allez, moi je vais vous parler de. J'enchaîne. Je voulais faire du stop motion. Stop motion, vous savez, c'est le principe de l'image par image.
Eh oui.
On prend une multitude de photos et donc comme ça on peut animer n'importe quel objet en tout cas. Je voulais faire ça. J'avais envie un petit peu de changer un petit peu pour des élèves quand ils font des petits tutos, de le faire plutôt par stop motion que de la vidéo ou des séries de diapos. Mais je voulais que ce soit sur tablette, forcément. Hein, c'est quand même plus simple. Je ne me voyais pas sortir l'appareil photo et compagnie et faire
non,
ça sur PC.
C'est une galère sans nom.
C'est une galère sans nom. Donc, j'ai trouvé un qui s'appelle Animation en volume. Il est plutôt très, très intéressant. Il est gratuit. Alors, il y aura une version payante, j'en parlerai tout à l'heure. Il existe sur Android et sur iPad. On va créer un projet. Tout simplement, on va commencer à prendre une photo avec notre téléphone ou avec la tablette. Ensuite, la deuxième photo, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir la superposer la première photo. Vous savez, en filigrane un petit peu derrière, un peu en transparence, on va pouvoir voir la première photo qu'on a prise pour bien ajuster la deuxième. Donc ça, c'est vraiment le truc de base sur un stop motion. Quand on n'a pas ça en stop motion, c'est assez compliqué, je trouve. Voilà. Donc on arrive à faire des trucs assez sympas rapidement, même sans trépied, tu vois, normalement le vrai stop motion, il faudrait vraiment avoir un trépied pour que ça bouge pas, etc. Mais grâce à ce petit ajustement de voir l'image précédente, on va pouvoir bien se caler par rapport à l'image d'avant, donc on peut faire même sans trépied. Ensuite on va pouvoir enchaîner hein, comme ça les différentes photos. Ensuite on va pouvoir s'enregistrer. Donc, enregistrer l'histoire, on va pouvoir s'enregistrer en audio, raconter, etc. Et on arrive, bien sûr, à la limite de la version gratuite. On en est là. Donc, après, on peut créer une vidéo, il n'y a pas de souci, etc.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Il va manquer, moi, je trouve, la musique de fond et les bruitages. Voilà. Voilà, la musique de fond et les bruitages, c'est la première chose que j'ai acheté, moi, parce que c'est compliqué de ne pas mettre des bruitages quand on a fait une petite vidéo là avec ma fille. Pas plus tard qu'hier, avec ses Playmobil sa voiture qui avançait. Donc, j'ai dit, il faut quand même un bruitage de voiture, quoi. C'est pas non. Hein. Donc, voilà. Après, on peut acheter des choses en plus, dont le fond vert. Ça, c'est super intéressant. On peut mettre un fond derrière, vous savez, le fond vert, un fond vert, et on peut incruster n'importe quoi derrière. Et ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Ça marche vraiment du tonnerre. Donc, c'est vraiment j'en ai testé pas mal de stop motion. Même la version gratuite, il n'y a pas un brin de pub. Avec ça, c'est déjà bien parce que j'en ai beaucoup des versions gratuites avec de la pub à gogo sans arrêt. On a des arrière-plans qui sont prédéfinis si l'on veut. On a des thèmes pour nous simplifier aussi les choses. Voilà. Quoi d'autre de plus dessus? On peut faire des effets de fondu. Après, on peut acheter des choses supplémentaires avec des filtres.
Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment complet. On peut insérer même des morceaux de vidéo dessus. Pourquoi pas? Bon. Voilà. Ça peut être intéressant. Il y a des options aussi pour colorer directement sur l'image. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour des possibilités. En tout cas, je trouve vraiment très puissant. Je vais l'utiliser moi en classe, en tout cas, parce que ça change un petit peu. Quand je veux voir un petit peu ce que les élèves ont compris, des fois, je leur fais sous forme de ou soit de diapo, ou soit d'enregistrement audio, vidéo. Là, je pourrais faire un peu de stop motion, ça changera un petit peu.
Alors, j'ai une petite question, en fait.
Oui.
Par rapport au titre, animation en volume.
Ouais, c'est une bonne question. C'est peut-être une très mauvaise traduction, je ne sais pas.
Parce que, alors, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'au départ, quand j'ai vu ça dans le fil de l'émission, je me dis, ah ben zut, ça c'est dommage. Parce que le stop motion, moi j'en fais pas mal avec mes élèves. Par exemple, moi j'aime bien faire un truc, c'est le faire le dessin à plusieurs où chacun rajoute un petit élément à chaque fois, on prend la photo. Et ils sont toujours bluffés par le résultat. Et pourtant, j'utilise une application où il n'y a même pas la possibilité de voir la transparence avec le truc d'avant. C'est une application vraiment basique où, en gros, une fois que c'est fini, ça te fait le film automatiquement. Et bien, même ça, ben ils sont super, super contents quand ils voient ça. Donc là, ton application, j'ai bien envie de la tester demain. Tu vois, là.
Parce que tu testais quoi, toi, avant, c'est ça?
Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a un côté pratique parce que, si tu veux, tu peux commander les tablettes entre elles ou les tablettes avec le smartphone. Il y a deux applications. Tu sais, une application qui va prendre les photos, une application qui peut faire télécommande. Mais là, pour le coup, ça m'intéresse un peu plus.
Ça aussi, c'est une option où tu peux payer pour déclencher à distance aussi.
Bah, tu sais, je préfère ce principe-là où en fait, tu construis ton application et tu y mets le prix que tu veux plutôt que...
Je n'ai pas testé. Bon, alors, je sais qu'on ne partage plus trop l'écran, mais en gros, voilà ce que j'ai pu faire en quoi? Allez, en 10 minutes avec... vous n'avez pas le son, c'est tout.
Voilà. Non, mais c'est... voilà.
Bah,
c'est
des choses très simples. Sans trépied, sans rien, tu vois. Voilà.
Ouais, non, mais c'est exactement ce que moi j'aime. Donc, écoute, je vais me la tester demain, celle-là.
Voilà, animation en volume.
Ça. Ouais, non, mais ça a l'air.
J'en ai testé quelques-unes. Ouais.
Ah, ben oui. Écoute, je retrouverai. Celle que j'utilisais était assez vieillotte, en fait. Et puis, avec des petits trucs qui pouvaient être un peu. Qui étaient un peu pièges pour les élèves. Mais non, celle-là me dit bien, du coup.
Ah. Ouais. Non, quand je pense. Je pense à l'instinct de ma fille qui fait ça avec appareil photo et ordinateur.
Alors, on peut. franchement, on peut. Bon, après, ouais, pourquoi pas. Mais c'est toujours la même chose. Si tu veux, moi, j'aime bien le numérique pour le temps que je ne passe pas devant.
Ben oui.
Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est sûr qu'avec un appareil photo, un truc, en prenant le temps, tu auras un résultat qui, au final, sera beaucoup mieux. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un résultat beaucoup mieux pour faire une initiation à ça, tu vois.
Tout à fait.
Parfois, on vise tellement un projet. Parce que quand tu mets des moyens pareils, tu vas viser un projet qui est très ambitieux dans sa forme ou dans sa fin. Tu vas avoir une qualité de produit. Moi, franchement, avec la petite animation que j'utilisais avant, je m'en fichais. Quoi. Il y a des photos, il y avait les doigts des enfants dessus, mais eux s'en fichent. Ce qu'ils regardent, c'est le produit fini. Ils n'en ont jamais fait. Ils ont le côté émerveillé. Je suis content, on a gagné.
Allez Seb, vas-y attaque. Allez.
Okay. Bon alors moi j'étais tombé, alors je suis un petit peu en ce moment dans une auto-formation sur le montage vidéo. Merveille de petite complexité ce truc, parce que je suis un très très néophyte dans l'idée. Et je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa du montage. Je me suis rappelé que l'année dernière, je crois, je vous avais parlé d'un des produits d'Adobe sur iPad qui s'appelle Adobe Clip, qui permet de faire des montages très simples avec le côté pâte Adobe, c'est tout fait, ou presque, mettez vos images et vous avez un produit fini de qualité presque professionnelle, presque. C'est toujours un outil assez sympathique. Là, je l'ai rouvert tout récemment. Alors, vous avez, je sais pas moi, vous avez 5 images et une vidéo. Vous voulez en faire une vidéo entière, ça fonctionne très, très bien. Ça rajoute une petite musique de fond. En plus, ça s'appelle Adobe Clip. Bon, bien sûr, après, si vous êtes à bosser sur Premiere, vous pouvez récupérer le truc. Mais bon, je me demande toujours quelle est la véritable utilité d'aller récupérer sur Premiere un petit truc aussi simple. Mais bon, donc vous avez Adobe Clip qui existe. Ça ne fonctionne que sur iPad. Ça fait partie des petits produits bien finis d'Adobe. comme pour ceux qui utilisent Adobe Spark Video, par exemple. Spark Video, c'est dans la même idée. C'est dans la même idée que Spark Page, etc. Tout ce genre de produits. Et récemment, chez notre ami Tisman, j'ai vu passer un produit. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas eu le temps de bien l'utiliser. Voilà. J'ai bien eu le temps de l'utiliser. Je vais juste vous exposer le principe. C'est pour faire des vidéogrammes. Le logiciel s'appelle Headliner.
Des vidéogrammes, je ne sais pas ce que c'est, moi. Yo.
Mais attends, j'y arrive.
Ah bon, pardon.
Voilà. Je mets des mots un peu compliqués.
Une bonne relance. Mais un vidéogramme, c'est quoi, Jamy?
Mais enfin, c'est tout simple. Allez, Marcel, fais chauffer le camion. Oh là là, ça donne des moyens dans cette émission.
C'est exceptionnel. Bruitage à la bouche, manière voilà. Linéaire. Pardon, vas-y.
Alors, donc, Headliner fait des vidéogrammes. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vidéogramme? Principalement destiné aux réseaux sociaux, le vidéogramme permet, à partir d'une source audio, de réaliser une vidéo. Il va aller en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le programme va transcrire l'audio que vous lui donnez. Et à partir de cette transcription, il va y inscrire des médias, principalement des photos. Et il vous fait le montage dans la foulée. Et si vous êtes gentil, apparemment, il fait le café.
Je l'ai testé, en fait. Je viens de m'en rappeler.
Ah ben bravo.
Oui, je l'ai testé.
Tu fais des vidéogrammes sans le savoir.
Oui, je l'avais testé, tout à fait.
Alors, ça me fait pas mal envie parce que j'ai toujours mon projet de web radio avec mes élèves et je me dis que ça peut être sympa parce que comme j'ai une plateforme qui est plutôt vidéo pour la présentation, je peux très bien prendre ce qu'ils ont fait et essayer de voir ce que ça donne comme programme. Ou alors j'y ai pensé en anglais parce que de base il fonctionne en anglais, ça peut être sympa aussi de voir ce qu'il peut donner. Donc qu'est-ce que tu t'en rappelles maintenant, Jeff?
Je suis en train de relire. Je sais plus ce que j'avais testé.
Après, si on veut simplement une transcription texte de la vidéo, apparemment le programme est pas trop mauvais. Pas trop mauvais. Après, vous savez, il y a toujours des toujours des coquilles, on va dire. Hein. Ça reste des intelligences artificielles encore un peu bêtes. Heureusement pour nous. Mais voilà. Donc, c'est un programme qui est plein de promesses.
Si je m'en souviens, ça avait été assez long pour récupérer la vidéo, je crois. Il y a un temps assez long.
Voilà. En tout cas, ça m'a donné bien envie de l'essayer. Je vais m'y atteler plus sérieusement quand j'aurai fini de faire d'autres trucs avec mes élèves. Mais voilà. On est toujours sur l'idée de faire une vidéo avec le moins de soucis possible. Hein, parce que pour ceux qui touchent un peu au montage, on le sait, voilà, quelques minutes de vidéo, c'est quelques heures de travail derrière. Alors, avec des élèves, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors ils adorent ça, ils ont pas besoin de nous, mais moi les miens, ils ont besoin de quelque chose de simple et fonctionnel. Et ça pourra peut-être y répondre. Voilà, messieurs.
Au prochain. Okay. C'est moi, c'est ça? C'est moi.
Voici,
allez. Allez, j'ai découvert un petit outil, ou plus de, on va dire des outils, qui s'appelle le cryptpad.fr, hein, CRYPTPad.fr. Vous allez me dire, c'est un énième pad.
Oui. Je vais faire la petite voix. Oui, c'est un petit. Pardon.
C'est un énième pad, mais c'est pas que. Voilà. C'est déjà open source. C'est français. C'est développé en France. Et quand on connaît les pads de chez Frama ou sur nos ENT, etc., il prend un sacré coup de vieux quand on a celui-là, en tout cas. Donc, on peut créer avec pad, un pad, hein, si je vous rappelle, on crée un pad, c'est-à-dire qu'on peut, en distribuant le lien, plusieurs peuvent écrire en même temps sur ce pad-là. Et c'est un pad vraiment de texte, ils appellent ça un pad de texte riche, parce qu'il y a vraiment toute une fonction dessus de traitement de texte, d'accord? C'est pas un simple pad où on pouvait pas faire grand-chose dessus. Mais donc voilà, pas besoin de compte, on peut créer le pad directement tout de suite. Au point de vue graphisme, franchement, c'est plutôt plaisant. Il y a un petit chat intégré, rien de nouveau à l'horizon, vous allez me dire. C'est vrai, mais vraiment, il prend un petit coup de jeune, en tout cas, ce CryptaPad. Je vous ai dit qu'il faisait pas que, il peut faire aussi un pad de code. Alors, pad de code, c'est quoi? C'est créer du code en collaboratif, pourquoi pas. On va pouvoir faire une présentation collaborative aussi dessus. Ils appellent ça une présentation Markdown. Donc, c'est la présentation collaborative, un peu à la Google, je sais pas comment il s'appelle, Slide, c'est ça? Un peu cette ambiance-là. C'est plutôt bien fait. Sondage, hein, le simple sondage ou planning. Et un truc que je vais utiliser cette année, qui, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, K-N-B-A-N, Kanban, je ne sais pas, Kanban.
Kanban, c'est japonais. Ouais.
C'est japonais ?
Oui. D'accord.
C'est vrai ou tu plaisantes ?
Non, je ne plaisante pas. Oh, l'attaque, mais bien sûr que non, je ne plaisante pas. C'est un
on système d'organisation. On n'arrive plus à savoir ce qu'il y a du faux dans ces missions. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est un... Vous savez, c'est les plannings, on dit à faire, en cours, terminé. Vous savez, vous marquez les tâches que vous avez à faire.
Ah, un Kanban, quoi.
C'est la version numérique des petites fiches en carton qu'on glissait dans ces grands tableaux métalliques.
Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Et ben, c'est plutôt bien fait. Ça, je vais l'utiliser parce que c'est plutôt très sympa. Vous pouvez en créer des nouveaux. Hein. Il y a pas que en faire en cours terminé. Vous pouvez en créer à votre guise. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, je continue. Hein, je défile un petit peu les fonctionnalités de CryptPad. On continue par un tableau blanc collaboratif, le tableau blanc simple collaboratif. Et on peut aussi faire ce qu'on appelle des pads locaux. Alors ça, j'ai pas testé. C'est-à-dire de créer des pads qui vont être hébergés dans le navigateur. Donc ça, j'ai pas testé, c'est à tester. A priori, hébergés dans le navigateur. Ça, c'est sans compte, mais on peut créer un compte. On peut créer un compte. Donc, créer un compte, ça veut dire qu'on va avoir tous nos pads sous notre compte, donc assez facilement pour le retrouver. Donc, on va pouvoir le partager, tout ça, on va pouvoir les intégrer. Donc, c'est plutôt, en tout cas, c'est plutôt une bonne trouvaille, ce CryptPad. Il cherche des financements, forcément. Quand on parle d'open source, on a toujours des problèmes de financement, donc vous pouvez les financer. Mais c'est un service, je trouve, plutôt très, très intéressant. Voilà. CryptPad.
Guillaume décède dans son coin.
Ouais, je suis désolé, moi aussi.
Je te dirais que c'est pas mal du tout. C'est vrai que, en fait, c'est très propre. Voilà.
Ouais, c'est très propre.
Voilà, il faut un petit peu faire le ménage parce que là, j'ai essayé, là, je me suis fait agresser par les pop-up, pas les pop-up, mais en fait, il y a tellement de trucs possibles et imaginables que tu es obligé de faire un peu le ménage. Mais franchement, il réunit pas mal de choses et avec une belle présentation.
Ouais, moi je trouve aussi.
En tout cas, effectivement, il est chouette par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Beaucoup plus moderne, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il s'exporte ces pads ou pas ? T'as un code embed qu'on peut récupérer quelque part ou pas ?
Tout à fait, t'as pas écouté d'ailleurs, c'est pour ça.
Tu l'as dit ?
Oui.
Non, pas vrai, tu l'as pas dit. Je reconnais que j'ai pas écouté pendant 2 secondes, j'étais en train de réfléchir. Voilà.
Tout à fait. Allez, on enchaîne, c'est à toi en plus Guillaume de parler. Allez, moi j'écoute plus.
Deuxième fois de l'émission quand même que je te fais répéter un truc que tu avais dit tout à l'heure, c'était sur s'il y avait du monde à la conférence. Et bon, bah, très bien. Bravo les cheminots. Alors, on continue avec mon outil. C'est un outil que j'ai découvert récemment là, sur un outil de veille justement qui s'appelle Parallel Text. Et voilà, qui m'a sauté aux yeux puisque c'est plutôt un outil pour les personnes qui souhaiteraient développer leur langue vivante, une langue vivante. Donc, comment ça se passe ? Alors là, même si la plupart de notre public nous écoute en audio, je vais quand même partager l'écran pour les quelques-uns qui...
Moi, je l'ai pas fait, hein.
Bah, c'est pas grave, moi je vais le faire quand même. Donc, en fait, Parallel Text, le principe de Parallel Text, il est simple, c'est de continuer en fait à. Pardon, je vais muter mes notifications. Vous vous rappelez, j'avais présenté plusieurs fois des outils pour travailler, améliorer une langue avec des vidéos comme Flix, comme PlayFrance, ouais. Des choses comme ça. Voilà. En gros, à partir de vidéos Netflix, YouTube, on pouvait d'abord mettre des sous-titres français, apprendre anglais en cliquant sur les mots. On avait pas mal d'interactivité. Là, l'idée, c'est un petit peu de travailler sur ce principe-là, sauf associé à la lecture. Donc, pour ceux qui ont eu l'habitude de lire en plusieurs langues, c'est ce qu'on appelait des livres bilingues. Web 2, quoi. Donc, en gros, c'est pas compliqué. Pour ceux qui voient, tant mieux. Les autres, j'explique. Vous allez sur le site. On va vous demander de quelle langue vous parlez. Donc, bon, moi, je suis francophone. Et on va surtout vous demander ensuite à quelle langue vous souhaiteriez, avec quelle langue vous souhaiteriez vous améliorer. Bon, je vais imaginer que je souhaite m'améliorer en anglais, ce qui est fort possible. À partir de là, il vous propose en fait un certain nombre de livres qui sont déjà enregistrés, bien évidemment, parce que ça ne marche pas aussi simplement que ça. Donc, vous choisissez un livre, ce sont tous des livres, mes excuses, qui sont tombés dans le domaine public, bien sûr. Et vous allez pouvoir travailler sur les deux langues. Allez, on va commencer avec Pride and Prejudice, qui est un bien connu, livre bien connu des personnes qui ont travaillé l'anglais à un certain niveau universitaire. Donc, ça commence par la lecture originale. Chapter 1. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. Donc, en fait, cette première phrase, vous pouvez la lire dans la langue que vous souhaitez améliorer. Vous pouvez l'écouter. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, malheureusement, ça va être quelque chose de plutôt synthétique. Je sais pas si ça en entend.
Non. On n'entend pas. Très faiblement.
Ouais, très faiblement. C'est pas terrible. Hein. C'est la fameuse lecture, vous savez, synthétique des textes. Il y a bien mieux aujourd'hui, mais on peut quand même avoir ça. Mais de toute façon, les profs de langue ne me contrediront pas. Quand on est dans de la compréhension écrite, qu'on développe cette compétence, on n'est pas sûr des compétences orales, de phonologie ou autre chose. Donc, c'est pas forcément important. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'en cliquant sur la petite flèche à côté de la phrase et du segment, je vais cliquer dessus et bien évidemment, j'ai la version française qui arrive. Alors, d'accord. J'ai vérifié juste sur le premier passage. C'est une version française qui est mieux qu'une Google Traduction, si vous voulez. Je ne suis pas certain que ce soit la traduction officielle du livre. Je ne suis pas allé vérifier dans le livre original, parce que je ne l'ai pas en français, pour tout vous dire. Mais en tout cas, ce n'est pas du traduction du mot à mot. Ça n'aurait aucun sens, bien évidemment. Donc, c'est quand même le sens général est bien, plutôt bien fait. Donc, ça peut avoir un intérêt pour les gens qui lisent déjà, quoi. En fait, c'est pas du tout un outil pour commencer à apprendre bien évidemment. C'est pas du Duolingo, c'est pas tout ça. Par contre, si vous lisez déjà un peu une langue, que ça vous intéresse de tenter une lecture, souvent c'est ce qui fait peur quand on apprend une langue vivante, d'un moment où on doit passer à la lecture un peu plus thick, quoi, un peu plus fat, un peu plus épaisse. On se dit, mais je vais rien comprendre. Et il est absolument impossible de lire un livre en langue étrangère avec un dictionnaire à côté de soi. On s'arrête à tous les mots. Puis, c'est pas comme ça qu'on apprend à lire. De toute façon, une langue étrangère, ça n'aurait pas de sens non plus. Là, c'est pas mal. Alors, par contre, il va pas falloir faire le va-et-vient tout le temps. Il faudrait vraiment se servir à la fin d'un paragraphe. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Il traduit des paragraphes complets ou des segments complets et pas du mot à mot. Donc, c'est plutôt assez impressionnant. J'ai pas testé sur tablette. J'espère que ça marche parce que ça peut être quand même plus intéressant d'avoir sur des liseuses ce truc qui fonctionne. Et voilà, c'est plutôt original. Voilà, vous avez même une vue splittée avec la version originale et la version traduite à côté. Donc ça, on connaissait déjà, hein, les livres bilingues, ça existait depuis longtemps. Moi, je préfère la vue d'abord dans une langue et on va cliquer si besoin est, plutôt que le parallèle, sinon on fait que le va-et-vient entre les deux. Voilà, parallèle texte, comme son nom l'indique. Bon, pour l'instant, ça ne marche que sur des œuvres classique de chez classique, mais j'ai pas essayé. Tiens, si par contre je dis que je parle, mettons le français et que je veux m'améliorer en allemand, on va essayer ça en direct. Qu'est-ce qu'on me propose comme livre? Ok, d'accord. Bon,
il y a un peu moins.
On propose Mein Kampf, c'est un peu. Non, je déconne.
Point Godwin en direct.
Point Godwin en direct. bien évidemment.
Oh putain.
Je l'ai faite. Oh, ça va, ça va. 22h06, on peut dire des conneries. Hein. Bien, en tout cas, vous voyez, on a Jenner, Alice au Pays des Merveilles, Madame Bovary, Notre-Dame de Paris, The Fall of the House of Usher. En français, je sais pas comment c'est, doit être Edgar Allan Poe, la chute de la maison de Usher, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, bien sûr, c'est gratos. Voilà.
Je l'avais vu passer ça en plus, tu vois.
Ouais, bah, je crois qu'on est un petit peu sur les mêmes outils de veille, hein, donc finalement, c'est un peu normal.
Ah, mais quand ça parle de langue, j'ose pas
toucher. Je sais bien, ouais, t'as bien raison. Je touche pas les langues.
Un excellent outil. Donc, je vais essayer. J'ai écouté un petit peu les remarques. Je vais faire sans partager mon écran comme ça. Ça ne fera personne. Et donc, un outil découvert grâce à Tistman. Hein, je recommande vraiment son blog qui pour moi, fait partie de ma principale source de découverte d'outils informatiques. Et là, c'est Open eLearning. Pour l'instant, pour être honnête, ça ne fait pas grand-chose. Mais ça vous permet de créer des modules de e-learning complètement complet en SCORM pour les héberger ensuite sur une plateforme. Alors, ça ne fait pas grand-chose. Vous pouvez travailler un petit peu.
SCORM.
Comment ? Ah oui, SCORM. C'est un package de cours, d'activités de cours que vous pouvez lancer sur une plateforme et après, une fois que les gens cliquent, ils sont un peu comme dans un diaporama où ils vont passer de slide en slide avec des activités à l'intérieur et puis il peut y avoir tout un tas de conditions pour pouvoir passer d'une slide à l'autre si vous répondez bien à un questionnaire ou pas bien, etc. Avec des retours et tout ça. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir un cours qui est en complète autonomie sans tuteur. Donc, vous avez tout le matériel face à vous et vous complétez ça. Nous, par exemple, dans mon organisation, c'est ce qu'on a pour une première formation à la sécurité. Et ça marche plutôt pas mal parce que pour nous, il s'agit de quand on part sur le terrain, de pouvoir avoir des bases sur la sécurité, de comment demander son hôtel, à quel étage, etc., de qui est votre référent sur place, qui contacter, quelles sont les différentes étapes. Donc, c'est vraiment des trucs où il n'y a pas sujet à discussion, quoi. D'accord? On n'est pas dans la maïotique. Il faut connaître les règles et les appliquer, point barre. Donc, ça marche bien pour ce genre de trucs-là. Je pense d'ailleurs que pour des tutos de formation à des outils, ça peut fonctionner aussi. Mais bref, pour revenir à cet outil, donc il est open source, il est libre, il est gratuit en plus, il est disponible sur Windows, Mac et Linux. Et il vous permet donc de créer des slides de formation. Alors vous pouvez mettre les titres, vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter des sous-titres, vous pouvez travailler la mise en page un peu comme sous PowerPoint, et vous pouvez ajouter des boutons pour passer de page en page. Donc en gros, sur le volet droit, vous avez toutes vos vignettes, et sur le volet gauche, vous avez toutes les options que vous pouvez intégrer à votre module. Et au centre, vous avez le produit fini. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter donc des activités interactives, telles que des questions à choix multiples, des questions à menu déroulant, et puis des questions pour appareiller des éléments. Donc, c'est à peu près tout. C'est le seul manque. C'est un peu léger pour l'instant. Et puis, vous pouvez ajouter un score final sous différentes formes. Vous pouvez ajouter des médias, des vidéos, soit que vous hébergez vous-même, soit à partir d'URL.
Et elles sont hébergées où, ces vidéos, si tu les héberges toi-même?
Eh ben, elles sont dans ton module SCORM. Et après, quand c'est balancé sur ta plateforme, c'est ta plateforme qui l'héberge.
Waouh! Et gratos? Tout ça gratos en plus?
Ah bah non, t'as payé un serveur pour mettre ta plateforme.
C'est toi qui héberge la vidéo, j'avais pas compris. Oui, d'accord.
Style,
d'accord.
Une plateforme Moodle, quoi. C'est ça, hein?
Oui, ok.
Non, ouais. Ouais. Il y a des jeux aussi, qui est un pendu et puis un jeu où on perd des vies et vous pouvez ajouter aussi des diagrammes et après il y a l'onglet prévisualisation. Donc c'est à peu près tout ce que ça fait, donc beaucoup moins puissant qu'un Articulate ou que Captivate, oui. de Adobe, on est d'accord, hein.
On n'est pas au même prix.
on n'est pas au même prix, on n'est pas non plus, parce que c'est très facile à prendre en main, c'est vraiment très visuel, on met tout ça. Donc, si vous avez fait un peu de Captivate, vous avez votre timeline et tout, et s'il y a 10 éléments, ça fait la timeline, pour pouvoir explorer, c'est un vrai casse-tête. Là, ça permet de faire des choses très simples, très courte aussi, mais bon, ça peut marcher pas mal. Et puis voilà, je trouvais ça intéressant. En tout cas, je vais ensuite pour le développement.
Oui, c'est en version bêta toujours, ils disent.
C'est une version bêta, mais c'est surtout le premier outil de ce genre en open source. Donc, je vais vraiment suivre de près et j'ai trouvé ça sympa. Donc,
encore une fois, ça mérite d'exister. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Vu le prix des outils e-learning, comme on le disait avant, pour des petites organisations ou des services publics, comme on peut en connaître certains, ça peut être intéressant de prendre ça en main.
Non, c'est à regarder, en tout cas, et à suivre, je pense. Ouais.
Et en plus, il y a des jeux, mais je ne pense pas qu'il y ait Fortnite, ce qui risque de ne pas intéresser nos chers élèves. Bien évidemment, si tu leur parles de jeux, voilà, c'était la blague du jour qui fera peut-être le titre de cette émission. Merci.
Là que tu l'as placé, j'ai pas le choix maintenant.
Voilà. Bon, j'ai rien à dire ce soir, qu'il faut que je dise des conneries, sinon.
Non, c'est très intéressant en tout cas, ouais.
Carrément. Eh ben, Seb, c'est à toi.
D'accord. Alors, pour ma part, je ne vous propose pas un outil informatique. Je vous propose un objet que l'on peut programmer qui s'appelle le microbit. Microbyte. Alors, ouais, je sais. Oui, moi aussi,
non, c'est bête pour le coup. Si tu l'as écrit comme tu l'as écrit sur le doc, c'est bien.
Et ouais, c'est, il me semblait que ce n'était pas byte. Ouais.
Ah, bête. Okay.
Putain, il n'y a pas que moi qui ne soit pas bon en anglais. Ça fait plaisir.
Ah, bah écoute, il n'y a pas de souci, je reconnais. Donc, au début des vacances, j'ai été faire un atelier de formation sur ce petit bitonio. Moi, j'appelle une carte programmable. Hein, avec les enfants, c'est beaucoup plus pratique. Alors, cet atelier, c'était organisé par. Alors, ils étaient plusieurs à l'organiser. On avait Kids Code Jeunesse, on avait Class Code et le Laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation, autrement acronymé en LIN, qui organisait donc cette formation et pour qu'on puisse, à destination des enseignants et consorts, pour prendre en main ce petit truc. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble en gros à une espèce de carte de crédit que vous allez pouvoir programmer, puisqu'en fait, c'est un mini-ordinateur, c'est beaucoup dire. Qui peut accepter du code et ce code pouvant être réalisé sous forme de bloc. Alors, on peut aussi le faire en Python, mais bon, moi, je ne connais pas trop le Python, donc on ne va peut-être pas exagérer. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Des tas de choses, surtout que la petite carte en question, elle a un accéléromètre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un accéléromètre, ça permet de connaître l'orientation de l'objet en question. Ça comporte deux petits boutons à l'avant. Ça possède aussi une radio, un compas, un thermomètre. Et en façade, ce qui va faire son succès au début, ce seront un petit panneau d'une vingtaine de LED, de petites LED sur lesquelles on peut faire afficher des tas de trucs préprogrammés. Donc une formation qui était de très bonne facture. Franchement, on s'est bien amusé pendant ça a duré quoi, 4-5 heures. Ouais, 4-5 heures qui sont passées super vite, très agréable, avec vraiment un truc, une mise en action, etc. Bon, on a fait un petit peu de programmation déconnectée, sans outils, et après on est passé sur la carte. La prise en main, elle est franchement simple. Les possibilités, bah, c'est toujours la même chose avec ce genre de petites cartes. Ça n'est limité que par votre imagination. Moi, je me suis éclaté pendant toute la matinée.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut programmer sans avoir de matériel supplémentaire. Quoi. La carte déjà suffit.
Voilà,
c'est ça. Hein.
Fait. Alors, on peut faire. Voilà. Tu as besoin d'un. Alors, tu programmes sur ordinateur sur une interface qui ressemble à du Scratch, par exemple. Et tu peux en faire tout ce que tu veux, quoi. Soit un petit panneau d'affichage, soit un podomètre si tu veux compter les pas. Moi, après la formation, du coup, je m'en suis acheté deux supplémentaires. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut les faire communiquer les unes. Elles peuvent se mettre sur le même canal radio et donc on peut programmer, influencer l'une avec l'autre.
C'est des. Ouais, des possibilités. Pour la petite histoire, c'est une carte qui a été créée pour l'éducation, hein, en plus. Hein, elle est vraiment été.
Par la BBC.
Ouais, par la BBC, tout à fait. Donc, elle est vraiment pensée pour l'éducation. Hein.
Ouais. Mais franchement, c'est très, très sympa à voir, à prendre en main. Voilà. Il y avait quand même dans le groupe des gens qui n'avaient jamais fait de Scratch, par exemple. Mm-hmm. Voilà, on y est tous arrivés à la fin, quand même.
Et... Alors, moi qui ne connais rien en programmation, en tout cas dans tous ces outils pour l'éducation, en Scratch, tu peux programmer un podomètre, j'ai pas bien compris en fait.
Alors, en fait, si tu veux, c'est quand je dis Scratch, c'est du Scratch-like, c'est la programmation par bloc.
Par bloc, oui.
Après,
ouais,
okay, après de toute façon, j'en reparlerai tout à l'heure dans l'émission, mais la programmation par bloc, là, elle est personnalisée. Tu vas avoir, quand j'appuie sur le bouton A, parce qu'il y a le bouton A, il y a le bouton B, quand l'engin est secoué, quand il est orienté vers le bas, vers le haut, à droite, à gauche, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Et donc, oui, tu peux faire un podomètre. Tu peux dire, à chaque fois que je suis secoué, je rajoute 1 à la variable temps et il va te compter ton nombre de pas si tu le fixes à ta cheville.
Et tu peux l'afficher puisqu'il y a des LED. Voilà.
Exactement, exactement.
Ça me fait penser à Meki Meki aussi.
Je vais en parler un peu plus tard aussi.
Et puisque tu as sorti le porte-monnaie pour cette carte, c'était combien?
Alors, c'est très, très, très onéreux. Ah, attention, ouais. Hein, je parle d'un produit qui m'a coûté 20 euros pièce.
Ah ouais, donc c'est 5 fois moins cher que Makey Makey.
Oui, mais après, qui reste pas la plus même... cher, qui reste plus cher qu'un Arduino, voilà.
Ouais, mais
Arduino, c'est combien aujourd'hui?
Plus sympathique et accessible.
Ben, Arduino officiel, c'est de l'open source, donc tu peux le trouver, le vrai fabricant en Italie, à 17-18 euros, mais tu le trouves dans un site d'AD compatible sur les sites chinois à 4-5 euros. Quoi.
Voilà. Et sur Wish, voilà. Les 100 sont à 5 euros.
Mais c'est pas la même approche. Voilà. Là,
c'est pas, non, c'est pas la même approche.
Arduino, tu vas rajouter des capteurs, quoi.
Oui, mais Arduino, voilà. Là, tu rentres dans de l'électricité aussi.
Tu rentres dans le capteur. Mais le microbit, hein, tu peux faire la même chose aussi. Hein. J'ai vu de...
Oui. Tu peux rajouter avec
la carte microbit.
Alors, en fait, c'est comme tout. J'ai commencé un petit peu à fouiller microbit. Il y a tout un marché autour maintenant. Tu peux rajouter de quoi le faire transformer en petit char autopropulsé, puis lui rajouter des LED, et puis le brancher à une on appelle ça là les trucs à pain là pour brancher les composants électroniques.
Un grille-pain ?
Non.
Les trucs à pain ?
Oui, les ah purée. Allez Jeff, aide-moi. Tu sais ces cartes,
ces cartes. Ce soir, moi. Les plaquettes lab.
Les
plaquettes lab, c'est ça ?
Non. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle bread quelque chose. Ça c'est pour brancher. Si vous avez envie de brancher des LED ou d'autres composants électroniques de façon temporaire pour essayer au circuit, eh bien ça s'appelle bread quelque chose.
Genre de fiche banane quoi, c'est ça ? Non. Alors, on parle de pain et de banane et d'électronique. Moi, je suis perdu, les gars. Là.
Ok, vous savez quoi, hein, je vais passer au suivant. Je vais aller chercher le nom de ce truc et puis je reviens.
Ah non, mais je suis d'accord avec toi. J'en avais un petit peu parlé de la microbit. C'est vrai qu'en ce moment, là, le vent en poupe parce qu'elle est vraiment spécialisée pour l'éducation. Elle est vraiment facile d'accès, même si on n'y connaît rien strictement électronique. Et tu as vite passé l'aspect Python, mais moi, je trouve que c'est ça qui est super intéressant. C'est que tu peux t'en servir du CMA. Oh, jusqu'en terminale et...
Breadboard, platine d'expérimentation.
Non, une plaquette.
Breadboard.
Je suis passé vite sur le Python parce que c'est, si tu veux, chez moi, le Python, je ne vais pas m'en servir. Et oui. Si je dis Python à des collègues, ben, je les entends déjà courir et passer par la porte de sortie.
Oui, mais moi, j'ai parlé du programme tout à l'heure de seconde, première terminale. On est sur du Python. Ils vont faire...
Mais est-ce que tu le sais, généralement, quand tu as de la programmation par bloc, tu as du Python facilement accessible. Là, tu peux transformer très rapidement sur ce qui était proposé. Tu passes rapidement de la programmation par bloc en Java. Et tu as une autre platine de programmation pour avoir la version en Python.
D'accord. Ok.
Rien à voir avec le serpent. Hein.
Rien. C'est putain, j'allais la faire.
Rien à voir avec le serpent.
J'allais la faire.
Voilà. Hein. Je suis dépité.
Non, hein, mais c'est bien dans cette équipe, tu vois, on a de littéraires, de scientifiques, c'est pas mal. C'est pas mal.
Rien à voir avec le serpent, ça mériterait peut-être mieux le titre de l'émission. Ok, on fait un concours sur le titre, d'accord.
Après avoir propulsé des chats électroniques, ou des chars peut-être, j'ai peut-être pas bien compris.
C'était des chars, ouais.
Ah, il me semblait aussi qu'il y avait un truc.
Ah, mais c'est à moi. Un petit outil. Voilà, le nom s'appelle QCM Cam. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une version, on va dire, open source, libre de la fameuse application qui s'appelle Pickers. Vous connaissez Pickers?
Oui.
Mais voilà. Rappelle-nous comment ça fonctionne.
Pickers, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de vote. Un outil de vote où chaque élève va avoir un petit code papier dans la main. Et à partir d'un smartphone, habituellement, on va scanner ces codes-là et on va avoir la réponse en tout cas, à la question qu'on a posée. Donc, un petit code papier qui, suivant l'inclinaison que tu donnes, l'orientation du code permet d'avoir 4 réponses parce que sinon… On est limité à 4 réponses, A, B, C, D. Voilà. Le principe, c'est ça. Pickers, je ne sais pas si vous avez vu son évolution, en tout cas dernièrement, c'est devenu une usine à gaz. J'ai essayé de le réutiliser en formation. C'était vraiment, c'est devenu une usine à gaz. On fait que chercher, que cliquer, etc. En tout cas, là, sur le site qui s'appelle qcmcam.geduc.net, un peu compliqué le nom. Ça a été développé par un enseignant. Il va m'en vouloir parce que j'ai perdu son nom. Je crois que c'est Sébastien Cogès, voilà, un collège à Cyprien.
qui a mis ça sous licence libre, Creative Commons en tout cas, tout ça. Et donc, comment ça marche? Ah merde, j'ai perdu le truc. Enfin, c'est pas grave. J'ai perdu le site. C'est pas grave. Ça marche à peu près la même façon. Au départ, il a fait ça sur. C'est une version dans le navigateur. On va directement sur l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure, la qcmcam.jduc.net. Il n'y a rien à installer. On est en connecté, donc forcément. Ça marche au départ par webcam. Lui, il est parti sur la webcam du PC. On va entrer sa liste d'élèves. On va donner à chaque élève un code de la même façon qu'on vient de parler tout à l'heure avec Picker. C'est un code papier qu'ils vont tenir à la main et qu'ils vont orienter d'un sens à l'autre par rapport à la question, par rapport à la réponse, pardon. On va afficher la question et avec la webcam, on va scanner tout ça et ça va nous donner les réponses des élèves. Donc là, aucun changement. On peut faire la même chose avec le smartphone aussi. Moins pratique. Hein, à l'utilisation, moi, que j'ai un peu essayé. Moins pratique avec le smartphone, mais avec la webcam, ça marche très bien. Vous allez me dire que rien de nouveau à l'horizon. Non, rien de nouveau. On est vraiment sur du Pickers-like. Hein, ça marche de la même façon.
En plus, il faut une webcam, je te coupe, qui soit mobile. Du coup, tu peux pas la faire avec la webcam d'un ordinateur portable, quoi. C'est pas très pratique.
Eh ben, si ta webcam, a priori, ce que j'ai compris, capte l'ensemble de ta classe, eh ben, il n'y a même pas besoin de la déplacer.
T'as pas besoin de la déplacer, d'accord. J'avais pas compris ça, ouais, ok.
Donc, il y a plusieurs codes, en plus, même avec des webcams de mauvaise qualité, alors que j'ai pas essayé, peuvent marcher. Les codes sont un peu plus gros et moins défini. Voilà, je trouve que c'est en tout cas une belle initiative, en tout cas, d'avoir développé ce petit logiciel. Alors, il y a une version, a priori, qu'on peut installer. Alors, je n'ai pas essayé. Donc, ça veut dire qu'on se passerait complètement de connexion. Voilà, on pourrait le faire en local complètement. Donc, ça, ce serait à tester et ce serait, je pense, assez intéressant là-dessus. Voilà, je disais, ça marche aussi sur tablette et sur smartphone.
En classe, ce genre d'outil, là.
Comment ?
Vous l'avez déjà testé, ce genre d'outil en classe ?
Moi, j'ai déjà utilisé Pickers très souvent en classe. En formation. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé en live. Non. J'ai juste testé à la maison tranquillement. Voilà.
J'imagine que c'est mieux quand même si tu as une utilisation régulière, parce que si tu fais juste pour une question, que tu sors ton téléphone pour regarder tous leurs cartes, tu as un peu l'air. Non.
Oui. Les élèves, je sais qu'on a un collègue de maths qui l'utilise beaucoup nous chez nous. Il les a fait. Ils ont les codes collés derrière leur cahier, tu vois, et ils ont directement.
Ouais, c'est un truc à ritualiser un peu avec.
Moi,
avec
je m'en sers très souvent, ouais, voilà, en rituel pour pouvoir faire de la vérification de connaissances. Par contre, hein, ça va jamais au-delà de ça, sur du vocabulaire, des fêtes, des choses très très simples. Début d'heure ou fin d'heure, crac, ils ont l'habitude, ils voient les questions, ils lèvent leur carte et quand c'est en place et que ça marche et qu'ils ont l'habitude, ça va très vite et c'est très efficace. Par contre, les premières séances, c'est la galère parce que bon, ils sont excités forcément. Enfin voilà, toujours un peu comme tout le monde.
Si vous le désirez, vous pouvez retrouver nos autres émissions sur le site e-teachers.fr. Consultez également notre page Facebook ainsi que notre compte de Twitter e-teachers.fr. Au revoir, à bientôt.